informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fogo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, transition au Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba a échangé hier avec le corps diplomatique sur les objectifs de la transition et demande l'accompagnement du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso ainsi que les représentants des organisations internationales et interafricaines. Football, le stade du 4 août ne sera pas opérationnel avant septembre 2022. C'est ce qu'on peut retenir de la visite organisée par le ministère en charge des sports hier avec les hommes de médias. Nous en parlons dans ce journal. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme chaque vendredi, nous vous plongeons au cœur de l'éditorial version Oméga Média qui fera la part belle à la mise en place des comités locaux pour dialoguer avec les terroristes. Notre invité du jour, Mahmoudou Savadgo, expert en sécurité, aborde également dans le même sens avec les tenants et les aboutissants de la mise en place des comités locaux de dialogue. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a rencontré hier matin le corps diplomatique accrédité au Burkina, ainsi que les représentants des organisations internationales et interafricaines. Les discussions ont porté sur la conduite de la transition. Plus de détails avec Bernabé Cabré.
Un face-à-face entre le chef de l'État et les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et interafricaines au Burkina Faso. Objet, échanger sur la conduite de la transition et obtenir le soutien et l'accompagnement des partenaires. Et bien évidemment, le président du Faso a justifié son coup de force perpétré le 24 janvier. C'est une prise de responsabilité que nous assumons pleinement, a réaffirmé le chef de l'État devant les diplomates. Il a ensuite fait un bilan des actions entreprises par son équipe depuis 3 mois avant de terminer par un plaidoyer pour un accompagnement conséquent du pays par les partenaires. Un accompagnement pour aider à atteindre les objectifs suivants, la lutte contre le terrorisme, la restauration de l'intégrité du territoire, une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire, le renforcement de la gouvernance, la lutte contre la corruption, l'assainissement et la refondation de la vie politique. Je voudrais vous donner l'assurance que notre action vise une mise en orbite définitive de notre pays. Nous savons que c'est un processus intergénérationnel, mais notre ambition est de donner le temps, a indiqué le président Damiba. Des échanges et donc évidemment, les diplomates ont posé des préoccupations. Elles tournent autour du chronogramme de la transition, du retour à l'ordre constitutionnel et du respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. En réponse, le président du Faso a insisté qu'il entend bien retourner à un ordre constitutionnel normal une fois que les conditions sécuritaires seront réunies, permettant l'organisation d'élections. Sur les questions relatives aux droits humains dans la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État a partagé cette préoccupation et déclaré que les dérives du genre sont préjudiciables aux efforts de restauration de la paix et de la sécurité.
Justement, parlant de transition, on le sait, le gouvernement burkinabé optait pour la création des mécanismes pour instaurer le dialogue avec les groupes armés, notamment avec la mise en place des comités locaux du dialogue pour la paix. Cette initiative est abordée dans notre éditorial du jour et c'est signé Wesley Oulon.
Le gouvernement va dialoguer, mais ne négociera pas. Paul-Henri Damiba et Yero Boly sont catégoriques sur leur démarche vis-à-vis des groupes armés qui menacent la sécurité des Burkinabés, qui tout de suite se demandent quelle différence y a-t-il entre dialoguer et négocier. C'est une rhétorique. À égarer le citoyen lambda, dialoguer dans le Larousse français, c'est une conversation entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet défini. Compte tenu de cette conversation, entretien, discussion, le dialogue est opposable au monologue ou la rupture du banc de communication. Dialoguer suppose donc prise de contact, relations de communication dans les deux sens, où émetteurs et récepteurs alternent leur rôle avec une disposition à s'écouter parfaitement. La négociation, elle, peut être un élément du dialogue dépendant de l'objet de ce dialogue. Négocier voulant dire discuter de quelque chose avec quelqu'un en vue d'établir la chose, de la rétablir, de l'obtenir. Comme par exemple, négocier la paix, négocier le dépôt des armes avec des frères burkinabés engagés dans des groupes terroristes. La négociation touche à l'objet du dialogue. On ne peut pas négocier sans dialoguer. Or, dans le contexte de la crise sécuritaire burkinabé, tout dialogue irrelatif va viser naturellement la paix. On va donc dire qu'on négociera quelle qu'en soit la situation. Ce qui n'est pas négociable dans la partie du dialogue, ce sera des points spécifiques de souveraineté et de valeur, comme monnayer leur désarmement contre des espèces sonnantes et trébuchantes, comme concéder une partie du territoire burkinabé, etc. Affirmatif donc, le gouvernement burkinabé négociera si dialogue il y a, sauf si c'est un dialogue de guerre dont l'objet n'est pas du tout la paix. On peut comprendre que Paul Henri Damiba et Yero Bouly n'aient pas trouvé les mots justes pour exprimer leurs idées. Schématiquement parlant et dans le lexique de la résolution des conflits, les priorités des autorités burkinabées vont être la déradicalisation et la prévention. Comme en médecine, la déradicalisation va consister en un sérum pour traiter le mal et en fonction du niveau, il y aura un traitement par voie orale, intraveineuse et la chirurgie pour les cas graves. Autrement, le dialogue et la négociation qui vont ensemble se feront avec ceux qui sont encore convertibles pour les amener à passer de la position radicale à celle modérée. La prévention équivalente de la vaccination va, elle, consister à préparer les Burkinabés non encore engagés à s'éloigner des prêcheurs de la violence et autres marchands d'illusions. Il faut comprendre, enfin, dans la démarche des autorités de la transition burkinabé, que la cible des interlocuteurs, ce sont les frères burkinabés engagés dans le terrorisme et non un quelconque groupe terroriste qu'ils s'appellent en sardine Al-Qaïda au Maghreb islamique, Moujaou, Boko Haram, Al-Mourabutoun ou Ansar al-Sharia.
Tout autre chose dans ce journal, à Ouagadougou, des environnementalistes ont manifesté hier leur mécontentement à travers un sitting au sein du ministère de l'Environnement. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de négligence à leur encontre dans la prise des décisions au sein du ministère. Ils exigent également une séparation des différentes entités, c'est-à-dire paramilitaires et civils. Écoutons le compte-rendu de Pierre Badolo.
C'est un sitting, mais pas le temps de s'asseoir. Ils sont restés debout pour dénoncer, disent-ils, la discrimination dans leur emploi. Ce sont des agents techniques et des inspecteurs de l'environnement avertis des questions d'aménagement, de gestion et des maux qui minent l'environnement burkinabé. Regroupés au sein du corps civil régi par la loi 081, ils ne veulent plus être des subordonnés des paramilitaires, notamment les eaux et forêts du même ministère de l'environnement régi par la loi 063. Paul Lengané, inspecteur de l'environnement.
Il y a un certain nombre de difficultés que nous rencontrons au niveau de notre ministère. Nous sommes une famille d'emploi civil régie par la loi 081. Nous nous retrouvons dans le ministère avec le corps paramilitaire des eaux et forêts. Il se trouve que dans l'organisation du ministère depuis plus d'une quinzaine d'années, les civils sont des subordonnés des paramilitaires. Par rapport aux dispositions de notre loi, nous trouvons qu'il y a des irrégularités. Cela fait en sorte que des paramilitaires vont se retrouver dans la commission d'affectation civile de la loi 081 à affecter des civils. Cela a eu aussi pour effet que notre corps civil, quand on regarde de plus près, se retrouve avec une hiérarchie paramilitaire, ce qui n'est pas convenable.
Ils veulent une valorisation du corps civil en lieu et place de travailler en binôme avec les paramilitaires. Saïdou Ilboudo, trésorier général du SINAE.
Un ministère qui est composé de deux entités, ce ministère, nous nous trouvons que c'est à la limite une discrimination. Quand vous regardez du département jusqu'au ministère, au cabinet du ministre, il n'y a pas un seul environnementaliste qui est là-bas. Pour les prises de décision, on n'est jamais été consulté. Voilà, donc quand vous allez voir, vous voyez que les gens veulent toujours conserver les environnementalistes dans les administrations paramilitaires.
Le corps civil régi par la loi 081 et le corps paramilitaire régi par la loi 063 sont tous deux des entités du ministère de l'Environnement œuvrant pour la protection et la sauvegarde. C'est dans le souci de protéger l'écologie burkinabé que le gouvernement a opté à la création d'emplois spécifiques civils par décret en 2006 à travers la loi 081 pour les aménagements paysagers.
Le Fonds national de la finance inclusive, FONAFI, a tenu une rencontre avec ses partenaires hier pour des échanges durant 48 heures dans le cadre de l'exécution du projet de promotion de la finance inclusive pour l'accès des populations à faible revenu aux services financiers. L'objectif de cet atelier est de faire le point à mi-parcours des difficultés de mise en œuvre des financements reçus. Compte rendu de Bethany Bambara et Laetitia Bayala avec la voix de Jean-Paul Ouedraogo.
Créé en 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive et de la volonté du gouvernement de faire l'inclusion financière des personnes à faible revenu une priorité, le FONAFI a été bénéficiaire d'un appui financier de 5 milliards de francs CFA pour accompagner 46 institutions de microfinance, et ce, dans le cadre du Fonds de la relance économique suite à la pandémie du Covid-19. Fidèle Yamiogo, directeur général du FONAFI.
L'ensemble de ces 5 milliards, il était convenu avec les plus hautes autorités de pouvoir donner 30% des subventions sur les 5 milliards au profit des institutions de microfinance partenaires et 70% sous forme de crédit à des taux bonifiés autour de 3,5% pour 46 systèmes financiers décentralisés pour l'ensemble de leurs clients qui ont été fortement impactés par cette pandémie.
C'est le lieu pour le FONAFI de faire un bilan mi-parcours de l'ensemble des financements reçus avec ses partenaires, mais également de discuter autour des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du projet. Fidèle Yamiogo, directeur général du FONAFI.
Nous attendons d'échanger avec l'ensemble de ces structures sur leurs préoccupations, parce qu'il faut s'en dire que ces fonds n'ont pas été forcément exécutés sans difficulté, mais à travers cette convocation pour 2 jours d'échange, et également ces structures vont quand même s'imprégner des canevas que nous avons voulu bien mettre à leur disposition pour nous renseigner et nous tenir informés des différentes situations produites à leur niveau.
Le FONAFI, qui se présente comme le bras financier de mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de la finance inclusive, est aussi un instrument spécialisé dans le refinancement des prestataires de services financiers que sont les systèmes financiers décentralisés et autres institutions financières.
2 millions pour booster l'autonomisation des femmes de Gonsin, l'ONG Lumière Synergie pour le développement a tendu sa main à l'endroit des femmes de Gonsin hier dans la commune de Gonsin. L'objectif de ce don est de booster les activités génératrices de revenus de toutes ces femmes afin de faciliter leur autonomisation et de leur donner de la force. Le compte rendu signé Moumouni Tamboura.
Ces femmes de Gonsin exercent dans diverses activités comme la fabrication du beurre de karité, du savon, du dolo et bien d'autres produits locaux. Chaque domaine d'activité représenté par une responsable a bénéficié de l'aide au nom de son groupe. Ce don permettra sans doute de développer les activités. Abibata Kabori, secrétaire général des femmes de Gonsin.
C'est l'occupation de nos terres qui les ont poussées à avoir pitié de nous. On ne peut plus payer à manger. On n'a plus de terres pour cultiver aussi. Ce sont nos petites activités qui nous permettent d'aider nos enfants, car ils font beaucoup plus pitié. Mais comme ils sont venus nous soutenir à sortir de cette misère, vraiment, nous sommes très contentes et ils peuvent compter sur nous. Nous allons bien travailler.
Après un travail de recherche, selon les responsables du projet, les femmes de la communauté sont encore plus impactées car n'étant pas considérées comme propriétaires terriens. Elles n'ont pas alors droit à une indemnisation alors qu'elles cultivaient les terres au même titre que les hommes et participent au développement économique. Telles sont entre autres les motivations de l'ONG à venir en aide à ces femmes. Habib Diaye, chargé de projet.
Nous, on travaille pour l'autonomisation de la femme. Si la femme est autonome, elle s'épanouit. Et l'épanouissement de la femme, c'est l'épanouissement de toute une communauté. Donc nous, on se bat pour que ces femmes-là soit autonome, soit indépendant, surtout financièrement.
Même si les bénéficiaires de la localité de Gonsin apprécient l'initiative de l'ONG, des défis ne manquent pas. Babacar Diouf, spécialiste suivi du projet.
L'un des défis également très important, c'est la consultation et la participation des femmes dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des projets d'infrastructure. L'absence de consultation et de participation des femmes entraîne directement les pertes de revenus et la paupérisation de ces femmes qui se reflètent sur la vie de leur ménage et de leur famille.
Plus de 160 femmes ont bénéficié de cette aide. Depuis 2021, l'ONG a initié un projet de mapping afin de faire le suivi des projets de la BAD dans 4 pays ouest africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso. En rappel, le projet Yélène, qui fait partie de l'initiative Desert Power, un projet de centrale solaire traverse le village de Gonsin et a causé la perte de plusieurs hectares de terre pour les populations qui vivaient exclusivement pour la plupart d'agriculture.
Mois de Ramadan, mois de dons et de partage. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, offre du sucre à la Grande Mosquée de Ouagadougou et au CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Le parti d'Eddy Kombeogo a fait parler son cœur en ce mois de jeûne en apportant mercredi dernier sa contribution aux musulmans de la Grande Mosquée et du CERFI. Un acte de générosité. Pour apporter dans cette période de jeûne du sucre aux musulmans, des précisions avec Marina Ouedraogo et Bernabé Cabré.
C'est la Grande Mosquée de Ouagadougou qui a d'abord reçu la visite de la délégation conduite par Eddy Kombeogo. Le président du CDP a effectué le déplacement pour apporter sa contribution à cette période de jeûne. Du sucre a été offert aux fidèles et réceptionné par les premiers responsables. Abdul Karim Kontogamde est le vice-président de la communauté musulmane du Burkina Faso.
L'acte que le CDP a posé, il y a de cela des années, ils le font. Donc vraiment, nous, on se réjouit de ça. Et on est très, très contents. Comme c'est un mois de carême, ça va droit avec le souci des musulmans. Puisque tout le monde, après la rupture, les gens prennent l'eau, mais avec le sucre, c'est plus agréable.
Après la Grande Mosquée, direction le CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Là également, ce sont des cartons de sucre qui ont été remis aux musulmans. Un geste que n'a pas manqué de saluer le président de la structure, Amidou Yamouyego.
Nous avons reçu beaucoup de sucre. Beaucoup de cartons de sucre de la part du CDP. Ça va aider les musulmans qui sont dans le besoin à pouvoir rompre dignement. Comme vous savez, notre pays traverse depuis quelques années une crise sécuritaire qui s'est dédoublée d'une crise humanitaire. Donc le Ramadan de cette année donc naturellement est très difficile pour les plus donc fragiles d'entre nous. Donc ce don-là va nous aider à pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent faire Ramadan humainement et dignement.
Le CDP, à travers ses dons à la Grande Mosquée et au CERFI, a une fois de plus voulu démontrer son attachement aux valeurs de partage et de vivre ensemble. Eddy Kombeogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès.
Nous sommes un mois de jeûne, de sacrifice, de supplice. Nous sommes venus donc leur témoigner notre solidarité en apportant quelques carreaux de sucre pour les plus démunis. Je sais qu'ils, eux-mêmes, directement, quand ils en prennent, ils se distribuent, comme d'habitude nous le faisons. Et cette année également, nous n'avons fait que réitérer. Nous sommes allés également à la mosquée centrale. Nous avons pu rencontrer les premiers représentants de la communauté musulmane. Continuons ce geste-là en espérant que par notre geste, d'autres puissent poursuivre.
À travers ce don, le CDP fait parler son cœur sans distinction ni d'appartenance à un parti politique. Le parti a souhaité que d'autres personnes puissent faire la même chose afin d'accompagner les musulmans durant cette période.
Omega Sport.
Le stade du 4 août ne répond plus aux normes internationales pour pratiquer le football. Conséquence, le Burkina Faso ne dispose jusqu'à ce jour d'aucun stade aux normes et est contraint de se déplacer dans d'autres pays pour jouer des matchs officiels. Pour rectifier le tir, le gouvernement engageait les travaux de rénovation de ce stade mythique. Débuté en octobre dernier, comment avance ce projet? Les étalons pourront-ils recevoir leurs adversaires à domicile pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? Côte d'Ivoire 2023, sur place sur le chantier, nous écoutons Herman Yabré, il est le directeur de cabinet du ministère en charge des sports.
Les jours à venir, comme il a dit tout de suite, juin, les vestiaires seront finis. La pelouse également, s'il plaît à Dieu. Avec ce minimum, nous pouvons négocier pour que nous puissions jouer nos matchs ici. Mais comme vous savez, le délai, c'est fin septembre. Ils ont jusqu'à fin septembre pour nous livrer le stade de réhabilité. Je pense que l'entreprise nous a rassurés. Et avec ce que nous avons vu sur place ici, la mobilisation du personnel, je pense qu'on peut dire qu'en fin septembre, nous aurons notre stade terminé.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité du jour est Mamoudou Savadgo. Il est expert en sécurité. Mamoudou Savadgo aborde aujourd'hui le projet du gouvernement burkinabé pour ce qui est de la mise en place des comités locaux pour dialoguer avec les terroristes. Il répond aux questions d'Asmao Dao.
Mamoudou Savadgo, une mise en place de comités locaux pour dialoguer avec les groupes terroristes sans frais. Le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent. Croyez-vous à la réussite de ce dialogue quand on sait que les terroristes misent gros pour épater des proies?
Ça va coûter beaucoup d'investissement en termes de volonté personnelle. Alors là où j'ai dit que ça va coûter beaucoup d'argent, parce que l'offre offerte par les groupes armés terroristes, elle est très alléchante. Qui leur donne, si vous voulez, un kit complet. Ce kit complet, c'est quoi? C'est la dignité, c'est la sortie de la pauvreté, c'est la reconnaissance de la société et c'est aussi l'occasion de se faire justice. Mais il y en a qui ont rejoint parce qu'ils étaient convaincus de la lutte de ces groupes armés. Il y a une idéologie qui les a poussés à rejoindre. Donc là, il va falloir les déradicaliser idéologiquement. Et cette déradicalisation idéologique incombe aux leaders religieux et encore aux leaders coutumiers. Et lorsqu'on finit cette étape, il y a maintenant l'insertion sociale. Et pendant ce temps, il faut bien s'occuper du jeune qui est là. Donc, il faut bien que quelqu'un lui donne à manger, parce qu'il ne va plus avoir à manger. Il faut que quelqu'un s'occupe de sa maman, de ses enfants, de ses frères. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait dire que ça ne peut pas être à zéro franc.
Est-ce que la mise à contribution de leaders locaux, chefs coutumiers et religieux, peut porter fruit? Quand on sait que des chefs coutumiers et surtout des leaders religieux sont enlevés et assassinés, pensez-vous que les groupes armés prendront cette main qui leur sera tendue?
Il faut impliquer différents acteurs à différents niveaux qui vont permettre à ce que ces jeunes-là soient acceptés d'abord par la communauté. Quelles que soient les propositions qu'on va les faire, si ces jeunes ne sont pas acceptés par les communautés dans lesquelles ils sont issus, eh bien, c'est peine perdue, les communautés vont les rejeter. Parce qu'il y a eu beaucoup de vengeance, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, et il va falloir d'abord que la communauté accepte de les pardonner. Ensuite, il va falloir qu'eux-mêmes, ils acceptent de rentrer dans le moule dans lequel on aurait préparé pour qu'ils rentrent. Donc ça veut dire qu'il faut une institution, une structure en place pour les accueillir et les démobiliser. Et ça peut nous permettre de récupérer ces jeunes-là, on peut les renvoyer pour convaincre les autres de revenir parce qu'il y a de l'espoir. Mais maintenant, est-ce que moralement, on a préparé l'opinion publique générale à accepter cet état de fait? C'est la question qu'on se pose.
Et l'option de dialogue, est-elle envisageable à court, moyen ou long terme?
À l'intérieur de ces groupes armés terroristes, il y a certaines acquaintances. Il y a d'abord différents groupes qui n'ont pas la même manière de fonctionner. Donc ça veut dire qu'on a des jeunes qui appartiennent à différents groupes, donc qui n'ont pas eu la même idéologie. Donc il va falloir d'abord comprendre l'idéologie à laquelle ils sont affiliés et voir quelle démarche il faut faire pour pouvoir les ramener vers nous. Donc c'est ce que j'ai dit, ça va prendre beaucoup plus de temps.
Ça va prendre beaucoup plus de temps pour quelle nécessité, à l'étape actuelle de récurrentes attaques et de pertes en vies humaines?
C'est toute la complexité. Nous sommes vraiment dans certaines zones en position de faiblesse parce qu'ils ont réussi à couper les moyens de communication, même les axes qui relient ces communes au chef-lieu de région. Donc, les populations sont prises en otage, les populations sont isolées, ceux qui arrivent à quitter ne peuvent plus retourner, et ceux-mêmes qui y retournent, deux fois, ils sont tellement marqués psychologiquement qu'ils repartent aussitôt parce que si dans ton village, on a tué des gens, on a jeté les corps dans des puits, vous voyez qu'il y a tout ça qu'il faut réparer avant que les personnes déplacées retournent. Maintenant, est-ce que réellement, on a les cartes en main? pour négocier, dialoguer ou discuter comme on veut et avec des gens qui ont un avantage sérieux sur nous. Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que le moment est porté? Mais ce que je pense, c'est que il y a des zones où il va falloir effectivement que nous y allons au corps à corps.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Adama Konaté. À la présentation, je suis Abdoul Kader Konaté. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.